Bonjour à tous et bienvenue dans Message Important. Aujourd'hui, au programme, un point sur le confinement dans sa version numéro 2.
Vous avez un message important.
On est vendredi.
Il est 11h.
Et c'est l'heure de...
Message Important.
Des sujets qui nous semblent importants, qui nous ressemblent,
qui méritent d'être mis en valeur.
Des débats,
des explications.
C'est ce que nous avons à offrir.
Et ça se passe maintenant
sur Studio Z.
C'est le 28 octobre que notre vie a basculé pour la deuxième fois avec l'annonce d'un deuxième confinement. Et oui, mercredi 28 octobre, notre président annonçait un nouveau confinement pour lutter contre l'ennemi numéro 1 de 2020. Et peut-être même de 2021, là ou le, comme vous voulez, Covid-19. Le lendemain, notre Premier ministre, accompagné par plusieurs autres ministres, comme le ministre de la Santé, du Travail, de l'Éducation, a expliqué plus en détail le déroulement de ce nouveau confinement. Ce qui a créé quelques petites déceptions pour les écoliers qui avaient misé sur la fermeture des écoles pour ne pas faire leurs devoirs, et pour certains employés, pour qui le télétravail n'est pas signe de facilité. Bref, la télé était à nouveau en boucle sur le confinement et ses désavantages, pendant que sur les réseaux sociaux, tout le monde donnait son avis sur ces nouvelles décisions. Donc, au retour de nos vacances de la Toussaint, on avait d'un côté les travailleurs qui récupéraient leurs dossiers à droite à gauche, les compagnies d'informatique débordées par les problèmes techniques en lien avec l'envahissement des salons par les ordinateurs. D'un autre côté, les élèves de la maternelle jusqu'au lycée reprenaient le chemin de l'école. Les enfants de primaire ont aussi pu découvrir le bonheur de porter le masque toute la journée. Mais c'est avec soulagement que les professeurs les ont accueillis, car ils avaient tellement peur de faire de nouveau face aux cours en distanciel, connus au mois de mars, qui sont beaucoup moins efficaces qu'enseignement en présentiel. Et puis d'un autre côté, si je résume au cas où vous auriez loupé tout ça, il y a les commerçants. Il y a Amazon, Cdiscount qui ont sorti le champagne, car les commandes ont explosé pendant le premier confinement. Et puis malheureusement, il y a nos petits commerçants, grâce à qui on bénéficie de merveilleux conseils adaptés à notre demande, qui se sont retrouvés une nouvelle fois fermés. Il y a aussi les restaurants, et là, que ce soit McDonald's, Burger King ou les petits restaurants de notre ville, ils ont tous reçu un nouveau coup de poignard, car ils ont tous dû fermer de nouveau leurs portes. Ce confinement numéro 2 s'est avéré beaucoup moins strict que le premier, et ça en a déconcerté quelques-uns. Enfin bon, à l'heure où je vous parle, on est toujours en train de rêver, de manger de bons petits plats préparés par des professionnels, d'aller se balader autant de temps qu'on le veut et dans n'importe quel magasin. Nous vivons en France, donc nous sommes français. Et vous connaissez la réputation des Français. Non, je ne parle pas de la marinière et du béret ainsi que de la petite baguette sous le bras, mais je parle du caractère râleur des Français. Alors, vous vous doutez bien que l'annonce de ce confinement n'a pas échappé aux plaintes. Bon, il y a eu les manifestations dites habituelles, si l'on veut, sur le port du masque par exemple. Et puis, il y a eu les lycéens qui ont manifesté et diffusé des images de leur journée au lycée. Sur ces images, on voyait des regroupements et des élèves serrés les uns contre les autres, parce que le nouveau protocole sanitaire, imaginé pour le retour des vacances de la Toussaint, était en réalité inapplicable. Et miracle, ces manifestations ont marché. Le ministre de l'Éducation a revu ses plans et a accepté que 50% des cours aient lieu en présentiel dans les lycées. Certains ont opté pour la division des classes en deux et d'autres pour l'obligation des élèves de venir qu'une semaine sur deux. Et puis maintenant, il y a les professeurs qui tentent d'organiser les cours comme ils le peuvent. Outre les écoliers, les restaurants ont aussi fait entendre leur mécontentement. On a beaucoup parlé de Philippe Etchebest, qui s'est progressivement, et surtout en multipliant les coups de gueule, présenté comme le porte-parole des restaurants. Cela a plu à certains, et pas à d'autres, comme d'habitude. Mais moi, je me suis demandé comment ça se passait pour nos restaurants locaux. Alors, j'ai interviewé Virginie et Laetitia, les gérantes du restaurant Le Coup de Fourchette à Blois.
Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, donc nous c'est Laetitia et Virginie et on est gérante du restaurant Le Coup de Fourchette à Blois.
Comment vous avez réagi face à la fermeture pour la deuxième fois de votre restaurant ?
Alors, deuxième coup de massue, pour tout vous dire, on s'y attendait un peu, contrairement à la première fois, Mais bah, coup de massue, parce que malgré toutes les règles qu'on avait mises en place, se retrouver à nouveau fermé, c'était très compliqué.
Est-ce que vous avez plus de temps pour gérer votre stock au niveau de la nourriture? Parce que c'est un problème qui est souvent mis en avant sur le fait que les bars, les restaurants ont un stock et que fermer du jour au lendemain, c'est très compliqué.
Alors nous, on travaille du fait maison, donc on travaille en flux tendu. Virginie, en cuisine, fait très attention à ses stocks. Là, ce qu'on a vraiment perdu, c'est qu'on pensait vraiment travailler le dernier week-end et que là, on nous a fait fermer avant un week-end. Sinon, on n'aurait pas eu autant de pertes.
Et justement, est-ce que juste avant le confinement, donc le confinement, c'était à partir du vendredi, est-ce que le jeudi, vous avez eu un peu plus de monde parce que les gens sont venus par solidarité, par soutien ou pour profiter une dernière fois d'aller au restaurant?
Alors, pas le midi, pour être sincère.
Le midi,
voilà, c'est… Les personnes le midi. Le midi, il y a beaucoup de gens en télétravail. Hein. Donc, c'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est que le midi, on avait de la clientèle qui venait justement… pas mal de sociétés en centre-ville hein, qui venaient le midi chez nous, mais du coup, le télétravail, ça pose problème pour nous en tout cas.
Est-ce que vous utilisez la vente à emporter qui est présentée comme la solution pour faire face aux fermetures des restaurants?
Non, pas du tout, parce que nous, on est un petit restaurant à taille humaine et c'est vrai que tout le monde prône la vente à emporter, mais sur une ville comme Blois, par rapport au nombre de restaurants qui sont déjà sur la ville de Blois, la vente à emporter nous ferait plutôt souffrir que de gagner. Donc, on a pris la décision de ne faire aucune vente à emporter.
Et comment vous envisagez la suite avec les fêtes et le déconfinement?
Alors, pour les fêtes, on a prévu de faire des commandes de Noël comme tous les ans, puisque nos clients étaient habitués à venir acheter leur foie gras et leur pain d'épices au restaurant. Donc, on a décidé de mettre en place une carte un peu de comme une vente à emporter de Noël pour qu'on puisse avoir des nouvelles de nos clients. Après, ce qui nous inquiète par rapport à la réouverture, c'est si l'espace est agrandi par rapport aux distanciations. Nous, dans un petit restaurant, on a déjà enlevé 10 couverts. Il nous reste plus que 15 places. Eh bien, on a peur qu'il nous reste plus que 5 places avec les nouvelles décisions.
Ça va pas tous les jours.
Il y a eu aussi tout un engouement autour des librairies. Certains propriétaires se sont sentis menacés par Amazon et les supermarchés qui, eux, sont restés ouverts et disposent d'un coin librairie. Alors, tous les rayons non essentiels des supermarchés sont désormais fermés. On a aussi proposé aux librairies, comme on a proposé la vente à emporter au restaurant, de faire du click and collect et de s'inscrire sur des sites regroupant les petites librairies. Et cela n'a pas suffi. Certains sont même allés jusqu'à braver les interdits et ouvrir quand même leur magasin. Comme la librairie de Cannes qui s'appelle Autour du Livre et qui a décidé de rester ouverte pour défendre la littérature, mais aussi et surtout pour ne pas faire faillite. Alors, j'ai rencontré, en visio bien évidemment, Marc-Olivier, le propriétaire de la nouvelle librairie de Blois, pour me rendre compte de la situation des librairies.
Eh bien, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je suis Marc-Olivier Amblard, dit Marco, libraire depuis plus de 30 ans, libraire classique d'abord dans le domaine du livre neuf, à travers plein d'enseignes indépendantes ou des marques connues, entre autres sur Blois, et maintenant 3 ans de reconversion dans un autre métier qui était le digital, parce que je pensais avoir fait le tour de mon métier. J'ai réouvert une librairie. Cette fois, une librairie d'occasion, un place Ave Maria.
Votre librairie a une petite spécialité au niveau des livres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette spécialité?
La spécialité, c'est que c'est une librairie d'occasion généraliste hein, qui a comme particularité d'avoir un prix unique. Le prix unique est de 3 euros. Il y a un prix progressif à 10 euros les 4. C'est classé comme dans une librairie générale, c'est-à-dire par grand domaine, par ordre alphabétique, par thème, par auteur. Il y a juste une concession au côté Chine et Antiquité, c'est-à-dire avec des bacs à fouilles, où là, il y a une sorte de classement aléatoire sur une table. Et c'est une idée qui a été créée par un collègue de Tours il y a plus de 8 ans.
Est-ce que lorsque le gouvernement a annoncé la fermeture des commerces non essentiels, vous êtes senti concerné?
Bah oui, complètement, parce que ça fait partie des commerces qui étaient considérés comme non alimentaires et non essentiels, ce qui est justifié par rapport à, comment dire, à la classification nécessaire à un risque sanitaire. Après, où mettre le curseur entre c'est un bien essentiel, je dirais, pour l'esprit et pour les relations humaines, la connaissance, et quelque chose d'aussi important ou plus important que la santé ou que l'alimentation, moi, je ne mettrais pas ce curseur-là. Je souffre commercialement d'avoir fermé, mais je trouve justifié, effectivement, les mesures qui sont prises pour l'instant. Après, effectivement, je ne préfère pas gloser et polémiquer sur le fait qu'à un moment ou un autre, il y a eu d'autres grandes chaînes qui avaient le droit de vendre du livre ou par Internet ou en physique. Ça reste paradoxal, mais bon, je sais que c'est un mal qu'il faut prendre avec patience. Je pense qu'au 1er décembre, on va réouvrir nos types de magasins. En attendant, je fais de la vente à emporter devant le magasin sur commande par Internet et particulièrement par Facebook, par téléphone ou par mail. D'accord. Ou alors, évidemment, les gens qui passent et qui voient mes belles vitrines avec plein de petits jouets dans la vitrine et qui font toc-toc. Et là, évidemment, je me propose de leur faire une sélection. Je sors denté, je sors avec une visière, avec un masque spécifique. J'ai l'impression d'être Dark Vador. Bon, les gens sont très contents. Bon, voilà, je fais deux fois plus de travail pour trois fois moins de chiffre d'affaires. Mais au moins, j'ai l'impression de me rendre utile et les gens me voient et on garde un lien, entre autres, par les réseaux sociaux. Il y a toujours cet effet communauté. La librairie est un endroit particulier, qu'elle soit d'occasion ou généraliste. C'est un lieu où les gens se confient, où les gens aiment flâner, où il y a beaucoup de discussions. Et c'est un lieu vivant, c'est un lieu qui rassure. C'est un lieu de plaisir aussi, c'est un lieu familial, j'ai beaucoup de familles qui viennent. Moi, le but du concept, c'est de mettre, comme c'est un prix très abordable, c'est de redonner quand même du budget aux gens. J'ai vendu du livre pendant très longtemps et j'ai estimé à un moment que le livre était quand même cher et industriel dans sa façon d'être fabriqué, d'être construit, d'être commercialisé. Donc à un moment, si on peut au moins recycler de façon noble la lecture et de donner une deuxième chance aux livres dont les gens veulent se débarrasser, plutôt que de les jeter, plutôt que de les donner à une ressourcerie, à partir du moment où ils sont en très bon état, que vous avez quelqu'un en face de vous qui est un vrai expert, qui est capable de vous donner des pistes de lecture, qui a une mémoire, je dirais, un catalogue dans sa tête, on va dire, sans besoin d'être digital. Moi, j'ai pas de souci avec une concurrence mal placée, je suis pas concurrent des librairies neuves, pas concurrent d'Amazon, c'est vrai qu'Amazon j'aime pas, c'est sûr, mais bon, je préfère la relation de la vie de quartier, la vie culturelle. Bah, c'est sûr, il y a beaucoup de frustration, on peut pas faire de lecture, on peut pas faire d'accrochage d'exposition, j'ai une petite caisse au premier étage qui normalement est dédiée à ça, c'est aussi le principe des bibliovores, celui de Tours, il fait régulièrement des petits concerts et des petits accrochages. Et deux collègues avaient pris le risque de parier sur une ouverture à l'automne. Et ma collègue d'Orléans devait ouvrir le premier jour du confinement, du deuxième confinement vendredi. Mon collègue de Tours, de Poitiers, devait ouvrir 15 jours après. Donc les deux sont beaucoup plus malheureux que moi. J'ai eu le temps quand même, en 3 mois, je dirais, de tisser déjà du lien. Ça, c'est très important. Et j'y crois vraiment surtout.
Est-ce que les gens sont sensibles à ce que vous mettez en place par les réseaux sociaux, en passant devant votre librairie
Ah oui, clairement, ouais, clairement. Il y a plusieurs pièges en fait. Il y a plusieurs amorces, plusieurs hameçons, les vitrines qui attirent les enfants et donc les familles. Les vitrines, j'ai quand même 4 belles vitrines dans cet ancien magasin historique de Blois, qui est l'ancien magasin de cycle qui s'appelle Théo, qui a plus de 60 ans d'existence. La dame qui possède ce magasin, enfin, en tout cas l'immeuble, a 80 ans. La chance que j'ai eue, c'est qu'elle soit amoureuse des livres. Et bizarrement, moi, je suis cycliste amateur, et donc je suis amoureux du vélo. Donc c'est bizarre, ça fait un match. C'est un mythique assez incroyable. Et les gens sont sensibles aux vitrines. Elles changent souvent. Et il y a beaucoup de choses qui tournent grâce aux vitrines. Et les messages sur les réseaux sociaux. Dans une autre vie parallèle digitale, j'ai toujours animé les pages Facebook de mes sociétés avec beaucoup, beaucoup d'envie J'ai toujours été geek. Pour moi, c'est pas incompatible. La culture peut être, passéiste, si on veut parler des livres anciens. Elle peut être aussi très moderne. J'adore les podcasts, j'adore le son, j'adore l'image. Pour moi, il n'y a rien d'incompatible à partir du moment où les gens sont curieux. L'essentiel, c'est la curiosité.
Et comment vous envisagez justement la réouverture peut-être le 1er décembre ou un peu plus tard? Comment vous envisagez cette réouverture-là avec du monde ou pas?
Non, ouais, je pense qu'il y aura une prudence comme pour le premier déconfinement. Il y aura sûrement une jauge à la surface à gérer, donc qui va limiter effectivement les entrées. Peut-être un sens de circulation, même si c'est un peu contre-productif dans une librairie, contre-intuitif plutôt. C'est-à-dire, les gens aiment flâner, aller d'un rayon à l'autre sans forcément avoir une logique. Il y a au contraire beaucoup de sérendipité, c'est-à-dire d'aléatoire, dans la façon de flâner en librairie. Il y a toujours le client qui sait ce qu'il veut et qui ne veut que ça. Là, il n'y a aucun souci vis-à-vis de lui. Hein. Il faut juste savoir l'accueillir, savoir effectivement le renseigner au plus vite. Et d'autres personnes qui, au contraire, aiment flâner, aiment attendre. Donc là, effectivement, il faut jongler entre plusieurs choses. Le fait de ne pas trop les laisser faire trop longtemps pour pouvoir laisser rentrer d'autres personnes. Quand il y a des familles, effectivement, pouvoir gérer les poussettes, par exemple, avec 3-4 personnes. C'est sûr que des samedis où j'avais 25 personnes dans 80 mètres carrés, ça sera sûrement plus possible pendant un certain temps. Et je pense que les gens mettront un peu de temps, au moins une semaine. Au déconfinement, ça avait mis 3 semaines la dernière fois, puis c'était reparti. Beaucoup, très fort. Il y a Noël qui arrive, je sais que j'ai beaucoup de demandes déjà, même les achats qui commencent maintenant, il n'y a pas besoin de coup marketing comme le Black Friday. La deuxième quinzaine de novembre a toujours été déjà une anticipation des achats de Noël, ne serait-ce que pour équilibrer un budget. Et les gens sont curieux. Je pense qu'ici, l'endroit, le vieux Blois, la place plus ou moins passante, la curiosité de tout un chacun fait que les gens sont contents d'avoir des idées. Et pas forcément de céder aux sirènes de la nouveauté. J'adore lire les nouveautés, j'adore les nouveaux produits. Et à partir du moment où j'ai un bon produit classique de qualité chère, c'est pas mal.
Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller pour justement à lire dans cette période-là, qui serait adéquat, entre guillemets, à cette période?
Il y a un petit néologisme marketing, hélas, qui s'appelle les feel good books, hein, qui ça veut dire les livres qui font du bien. Souvent, dans les moments de crise, il y a toujours deux tendances qui ont toujours marqué les librairies après des moments de crise ou pendant des moments de crise. Les livres qui font prendre conscience, donc qui font réfléchir pour comprendre la situation. Donc, ça peut être effectivement des livres sur la spiritualité, la maladie, les sciences, le côté zen et prendre du recul et voir pourquoi pas certains livres économiques ou politiques. Les autres sont des livres plaisir. La lecture est aussi une lecture plaisir. Il y a beaucoup de romans qui sont comme ça, romans avec un fond drôle, qui sont des mélos mais à version positive. Côté là, entre les deux, il existe certains ouvrages qui sont des sagas romanesques dans lesquels vous avez, comme dans une grosse série, pour ceux qui sont amateurs de séries, à la fois toutes les couleurs des émotions, le rire, les larmes, le drame. De ce côté-là, j'ai un livre fétiche qui s'appelle « L'ombre du vent » de Carlos Ruiz Zafón, un auteur qui est mort il n'y a pas très longtemps cette année, pas du Covid, mais bon, qui est mort hélas un peu plus jeune que prévu, et qui a écrit des sagas romanesques qui sont superbes. Bon, la première phrase est assez magique, « L'ombre du vent », ça se passe à Barcelone, en pleine après-guerre, après la guerre civile, et donc la dictature, où un jeune libraire apprend le métier grâce à son père, et à l'âge de 12 ans, il est emmené, et c'est la première phrase, « À l'âge de 12 ans, mon père m'a amené découvrir le cimetière des livres oubliés. » Des livres oubliés, c'est justement un peu la philosophie du bibliovore, c'est de ne pas laisser les livres tout seul, hein, parce qu'en fait, le tout début du livre, hein, c'est ce jeune garçon va, dans un rituel assez sympathique, adopter un livre. Et quand on adopte un livre, on le défend toute sa vie, et c'est le début de l'intrigue qui va faire découvrir Barcelone, l'après-guerre. Il y a une intrigue amoureuse, une intrigue secrète, et effectivement, un livre peut vous emmener très loin. C'est un peu une métaphore pour moi de la lecture et de la découverte de la librairie, c'est que vous avez des surprises, c'est un peu aussi la métaphore de Forrest Gump, c'est comme dans une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Par chance, le gouvernement a annoncé récemment la réouverture des magasins et donc des librairies le samedi 28 novembre et une potentielle fin du confinement le 15 décembre. Évidemment, il nous reste encore un bout de chemin à parcourir puisque les restaurants ne réouvriront pas avant le 20 janvier et que le virus circule toujours. Bien entendu, je n'ai fait qu'un petit résumé de cette période qui est compliquée pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, je remercie une nouvelle fois mes invités et je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis au mois prochain, toujours en compagnie des masques et du gel hydroalcoolique.
Et Julien. On se retrouve le mois prochain à la même heure. Et si vous avez des initiatives à mettre en valeur, n'hésitez pas à nous contacter sur studiozef.fr et nous ferons un plaisir de vous accueillir.